Voilà les qualités du gardien de l'État. Mais quelle éducation lui donnerons-nous? Examinons auparavant si cette recherche peut nous servir relativement au but de notre entretien, qui est de connaître comment la justice et l'injustice prennent naissance dans un État. Afin de ne point négliger une question importante ou d'éviter des longueurs. Je pense, reprit le frère de Glaucon, que cette recherche nous est utile pour arriver à notre but. Alors certes, il ne faut pas l'abandonner, mon cher Adimante, quelque longue qu'elle puisse être. Non, sans doute. Allons, faisons en parole l'éducation de nos guerriers, à notre aise et par manière de conversation. Il le faut. Quelle éducation convient-il de leur donner? N'est-il pas difficile d'en trouver une meilleure que celle qui est en usage depuis longtemps? Elle consiste à former le corps par la gymnastique et l'âme par la musique. Oui. Et l'éducation ne commencera-t-elle pas par la musique plutôt que par la gymnastique? Comment? Les discours, ne sont-ils pas du ressort de la musique? Oui. Et n'y en a-t-il pas de deux sortes, les uns vrais, les autres mensongers? Oui. Les uns et les autres doivent servir à l'éducation, et d'abord ceux qui sont des mensonges. Je ne comprends pas ta pensée. Quoi? Tu ne sais pas que les premiers discours qu'on tient aux enfants sont des fables? Elles ont du vrai. Mais en général, le mensonge y domine. On amuse les enfants avec ces fables avant de les envoyer au gymnase. Cela est vrai. Voilà pourquoi je disais qu'il faut commencer par la musique plutôt que par la gymnastique. À la bonne heure. Tu n'ignores pas qu'en toute chose, la grande affaire est le commencement, surtout à l'égard d'êtres jeunes et tendres. Car c'est alors qu'ils se façonnent et reçoivent l'empreinte qu'on veut leur donner. Tu as raison, Socrate. En ce cas, souffrirons-nous que les enfants écoutent toutes sortes de fables imaginées par le premier venu, et que leur esprit prenne des opinions la plupart du temps contraires à celles dont nous reconnaîtrons qu'ils ont besoin dans l'âge mûr? Non, jamais. Il faut donc nous occuper d'abord de ceux qui composent des fables, choisir leurs bonnes pièces et rejeter les autres. Nous engagerons les nourrices et les mères à raconter aux enfants les fables dont on aura fait choix et à s'en servir pour former leurs âmes avec encore plus de soin qu'elles n'en mettent à former leur corps. Quant aux fables dont elles les amusent, aujourd'hui, il faut en rejeter le plus grand nombre. Lesquelles? Nous jugerons des petites compositions de ce genre par les plus grandes, car, grandes et petites, il faut bien qu'elles soient faites sur le même modèle et produisent le même effet. N'est-il pas vrai? Oui, mais je ne vois pas quelles sont ces grandes fables dont tu parles. Celles d'Hésiode, d'Homère et des autres poètes. Car toutes les fables qu'ils ont débitées et qu'ils débitent encore aux hommes sont remplies de mensonges. Quelles fables encore? Et qui blâmes-tu? J'y blâme ce qui mérite, avant et par-dessus tout, d'être blâmé. Des mensonges d'un assez mauvais caractère. Que veux-tu dire? Des mensonges qui défigurent les dieux et les héros, semblables à des portraits qui n'auraient aucune ressemblance avec les personnes que le peintre aurait voulu représenter. Je conviens que cela est digne de blâme, mais comment ce reproche convient-il au poète? D'abord, il a imaginé, sur les plus grands des dieux, le plus grand et le plus monstrueux mensonge, celui qui raconte qu'Uranus a fait ce que lui attribue Hésiode, et comment Cronos s'en vengea. Quand la conduite de Cronos et la manière dont il fut traité à son tour par son fils serait vraie, encore faudrait-il, à mon avis, éviter de les raconter ainsi à des personnes dépourvues de raison, à des enfants. Il vaudrait mieux les ensevelir dans un profond silence, ou, s'il est nécessaire d'en parler, le faire avec tout l'appareil des mystères, devant un très petit nombre d'auditeurs, après leur avoir fait immoler, non pas un porc, mais quelques victimes précieuses et rares, afin de rendre encore plus petit le nombre des initiés. Sans doute, car de pareils récits sont dangereux. Aussi, mon cher Adimante, seront-ils interdits dans notre état? Il n'y sera pas permis de dire à un enfant qu'en commettant les plus grands crimes, il ne fait rien d'extraordinaire, et qu'en tirant la plus cruelle vengeance des mauvais traitements qu'il aura reçus de son père, il ne fait qu'une chose dont les premiers et les plus grands des dieux lui ont donné l'exemple. Ah non, par Jupiter, ce ne sont pas là des choses qui soient bonnes à dire. Et si nous voulons que les gardiens de l'État regardent comme une infamie de se quereller entre eux à tout propos, nous passerons absolument sous silence les guerres des dieux, les pièges qu'ils se dressent et leurs querelles. Il n'y a d'ailleurs rien de vrai dans ces fables. Il faut encore se bien garder de faire connaître, soit par des récits, soit par des représentations figurées, les guerres des géants, et ces haines de toute espèce qui ont armé les dieux et les héros contre leurs proches et leurs amis. Au contraire, si nous voulons persuader que jamais la discorde n'a régné entre les citoyens d'un même État, et qu'elle ne peut y régner sans crime, il faut que les vieillards, de l'un et de l'autre sexe, ne disent rien aux enfants, dès leur plus jeune âge et à mesure qu'ils avancent dans la vie, qui ne tendent à cette fin. Et il faut que les poètes soient obligés de donner aussi le même sens à leur fiction. Il sera aussi défendu, parmi nous, de dire que Junon a été chargé de chaînes par son fils, et Vulcain précipité du ciel par son père pour s'être mis au devant des coups portés à sa mère, et de raconter tous ces combats des dieux imaginés par Homère, soit qu'il y ait ou non allégorie. Car un enfant n'est pas en état de discerner ce qui est allégorique de ce qui ne l'est pas. Et tout ce qu'on livre à l'esprit crédule de cet âge, si grave en traits ineffaçables. C'est pourquoi il importe extrêmement que les premières choses qu'il entendra soient des fables les plus propres à le porter à la vertu. Cela est censé, mais si on nous demandait quelles sont les fables qu'il est à propos de faire, que répondrions-nous? Mon cher Adimante, ni toi ni moi ne sommes poètes en ce moment, mais fondateurs d'un État. Il nous convient de savoir d'après quel modèle les poètes doivent composer leurs fables et de leur défendre de s'en écarter. Mais ce n'est point à nous d'être poètes. Tu as raison. Mais encore, quelles règles prescriras-tu pour la composition des fables dont les dieux sont le sujet? Les voici. D'abord, dans l'épopée, comme dans l'ode et la tragédie, les poètes représenteront toujours Dieu tel qu'il est. Il le faut, en effet. Mais Dieu n'est-il pas essentiellement bon? Et doit-on en parler autrement? Qui en doute? Rien de ce qui est bon n'est nuisible. Non, ce me semble. Ce qui n'est pas nuisible ne nuit pas en effet. Non. Ce qui n'est pas nuisible fait-il le mal? Pas davantage. S'il ne fait pas le mal, il n'est pas non plus cause du mal. Comment le serait-il? Ce qui est bon est bienfaisant. Oui. Et par conséquent, cause de ce qui se fait de bien. Oui. Ce qui est bon n'est donc pas cause de tout. Il est cause du bien, mais il n'est pas cause du mal. Cela est incontestable. Ainsi, Dieu étant essentiellement bon, n'est pas cause de tout, comme on le dit souvent. Il n'est cause que d'une petite partie des choses qui nous arrivent, et non pas du reste, car nos biens sont en petit nombre en comparaison de nos maux. Or, il est la seule cause des biens, mais pour les maux, il faut en chercher la cause partout ailleurs qu'en lui. Rien de plus vrai, à mon avis. On ne doit donc pas admettre, sur l'autorité d'Homère ou de tout autre poète, une erreur au sujet des dieux aussi absurde que celle-ci. Sur le seuil du palais de Jupiter sont placés deux tonneaux remplis, l'un de biens, l'autre de maux. Ni que celui pour qui Jupiter puise dans l'un et dans l'autre éprouve tantôt du mal et tantôt du bien, mais que celui pour lequel il ne puise que du mauvais côté, la faim dévorante le poursuit sur la terre féconde. Et ailleurs, Jupiter est le distributeur des biens et des maux. Si un poète nous raconte que ce fut Jupiter et Minerve qui poussèrent Pindare à rompre la foi des serments et la trêve, nous lui refuserons nos éloges. Il en sera de même de la querelle des dieux apaisée par le jugement de Thémis et de Jupiter. Nous ne permettrons pas non plus de dire, comme Eschyle, en présence des jeunes gens: quand Dieu veut la ruine d'une famille, il fait naître l'occasion de la punir. Si quelque poète représente sur la scène, où ses iambes se récitent, les malheurs de Niobé, ou de la famille de Pélops ou des Troyens, nous ne souffrirons pas qu'ils disent que ces malheurs sont l'ouvrage de Dieu. Ou s'il les lui attribue, il doit en rendre raison à peu près comme nous. Il doit dire que Dieu n'a rien fait que de juste et de bon, et que le châtiment a tourné à l'avantage des coupables. Si nous ne souffrons pas non plus que le poète appelle le châtiment un malheur et attribue ce malheur à Dieu, nous lui permettrons de dire que les méchants sont à plaindre en ce qu'ils ont eu besoin d'un châtiment et que Dieu, en les châtillant, a fait leur bien. Mais employons tous nos moyens à réfuter celui qui dirait qu'un Dieu bon est auteur de quelque mal. Jamais, dans un État qui doit avoir de bonnes lois, ni vieux ni jeunes ne doivent tenir ou entendre de pareils discours sous le voile de la fiction, soit en vers, soit en prose, parce qu'ils sont impies, dangereux et absurdes. Cette loi me plaît beaucoup. Elle a mon suffrage. Ainsi, la première des lois et des règles sur les choses religieuses prescrira de reconnaître, et dans les discours ordinaires et dans les compositions poétiques, que Dieu n'est pas l'auteur de tout, mais seulement du bien. Cela suffit. Vois donc quelle sera la seconde loi. Doit-on regarder Dieu comme un enchanteur qui se plaît en quelque sorte à nous tendre des pièges, tantôt quittant la forme qui lui est propre, pour prendre des figures étrangères, tantôt nous trompant par des changements apparents, et nous faisant croire qu'ils sont réels? N'est-ce pas plutôt un être simple, et de tous les êtres, celui qui sort le moins de sa forme? Je ne suis pas en état de te répondre pour le moment. Mais quoi? Lorsqu'un être quitte la forme qui lui est propre, n'est-il pas nécessaire que ce changement vienne de lui-même ou d'un autre? Oui. D'abord pour les changements qui viennent d'une cause étrangère. Les êtres les mieux constitués ne sont-ils pas ceux qui y sont le moins soumis? Par exemple, les corps les plus sains et les plus robustes ne sont-ils pas les moins affectés par les aliments et le travail? Et n'en est-il pas de même des plantes par rapport aux ardeurs du soleil, aux vents et aux autres outrages des saisons? Sans doute. L'âme n'est-elle pas aussi d'autant moins troublée et altérée par les accidents extérieurs qu'elle est plus courageuse et plus sage? Oui. Par la même raison, tous les ouvrages de main d'homme, les édifices, les meubles, les vêtements, résistent au temps et à tout ce qui peut les détruire, à proportion qu'ils sont bien travaillés et formés de bons matériaux. Cela est vrai. Un être est donc, en général, d'autant moins exposé au changement qu'il est plus parfait, soit qu'il tienne cette perfection de la nature ou de l'art, ou de l'un et de l'autre. Cela doit être. Mais Dieu est parfait avec tout ce qui tient à sa nature. Oui. Ainsi Dieu est l'être le moins susceptible de recevoir plusieurs formes. Certainement. Serait-ce donc de lui-même qu'il changerait de forme? Oui, s'il est vrai qu'il en change. Et ce changement de forme serait-il en mieux ou en pis? Nécessairement, si Dieu change, ce ne peut être qu'en mal, car nous n'avons garde de dire qu'il manque à Dieu aucune perfection. Très bien. Cela posé, crois-tu, Adimante, qu'un être, quel qu'il soit, homme ou Dieu, prenne volontiers de lui-même une forme inférieure à la sienne? Impossible. Il est donc impossible que Dieu veuille se donner une autre forme. Et chacun des dieux, étant de sa nature aussi excellent qu'il peut être, doit conserver la forme qui lui est propre dans une immuable simplicité. Il me semble que cela est de toute nécessité. Qu'aucun poète, mon cher ami, ne s'avise donc de nous dire que les dieux, prenant la figure de voyageurs de divers pays, parcourent les villes sous des déguisements de toute espèce. Ni de nous débiter leurs mensonges sur Protée et Thétis, ni de nous représenter dans la tragédie ou dans tout autre poème Junon sous la figure d'une prêtresse qui mendie, pour les enfants bienfaisants du fleuve argien Inachus. Ni enfin d'imaginer beaucoup d'autres fictions semblables. Que les mères n'aillent pas non plus sur la foi des poètes, effrayer leurs enfants en leur faisant de mauvais contes, qu'il y a des dieux qui errent pendant la nuit sous la figure d'étrangers de tous les pays. Ce serait à la fois faire injure aux dieux et rendre les enfants encore plus timides. Il faut bien qu'elles s'en gardent. Mais si les dieux sont réellement par eux-mêmes, incapables de tout changement, est-il vrai qu'ils nous font croire, du moins, qu'ils se montrent sous cette grande variété de figures étrangères, par une sorte d'imposture et par des tours d'enchanteurs? Peut-être bien. Un dieu voudrait-il mentir en parole ou en action, en nous présentant un fantôme au lieu de lui-même? Je ne sais. Quoi? Tu ne sais pas que le vrai mensonge, si je puis parler ainsi, est également détesté des hommes et des dieux? Qu'entends-tu par là? J'entends que personne ne consent volontairement à ce que la partie la plus importante de lui-même soit trompée, et surtout sur les choses les plus importantes, et qu'il n'ait rien qu'on craigne davantage. Je ne te comprends pas encore. Tu crois que je dis quelque chose de bien relevé? Non. Je dis que ce qu'on supporte avec le plus de peine, c'est d'être trompé ou de l'avoir été, c'est-à-dire d'ignorer ce qui est. C'est dans l'âme que personne ne veut avoir ni garder le mensonge, et c'est là surtout qu'il excite la haine. À la bonne heure. Le vrai mensonge, c'est donc, avec beaucoup de justesse dans l'expression, l'ignorance qui affecte l'âme de celui qui a été trompé. Car le mensonge qui se produit au dehors par la parole est une imitation de ce qui se passe dans l'âme, une sorte de copie qui le manifeste plus tard. Ce n'est pas un mensonge dans toute sa pureté. N'est-il pas vrai? Tu as raison. Le vrai mensonge est détesté non seulement des dieux, mais des hommes. Je le pense. Mais pour le mensonge dans les paroles, N'est-il pas des circonstances où il perd ce qu'il a d'odieux parce qu'il devient utile? Et n'a-t-il pas son utilité lorsqu'on s'en sert, par exemple, contre des ennemis, ou même envers un ami que la fureur ou la démence porterait à quelque mauvaise action, le mensonge devenant alors un remède qu'on emploie pour le détourner de son dessein. Et encore dans les compositions poétiques dont nous venons de parler, lorsque dans notre ignorance de ce qui s'est réellement passé dans les temps anciens, nous donnons à nos fictions toute la vraisemblance possible, ne rendons-nous pas là le mensonge utile? Cela est très vrai. Mais comment le mensonge deviendrait-il jamais utile à Dieu? L'ignorance de ce qui s'est passé dans les temps anciens le réduirait-elle à mentir avec vraisemblance? Il serait ridicule de le dire, Socrate. Par conséquent, on ne peut pas trouver en Dieu un poète menteur. Non. Mentirait-il à cause des ennemis qu'il redoute? Il s'en faut bien. Ou à cause de ses amis furieux ou insensés? Mais les furieux et les insensés ne sont pas aimés des dieux. Aucune raison n'oblige donc Dieu à mentir. Non. Tout ce qui est divin est en opposition complète avec le mensonge. Oui. Essentiellement simple et vrai en parole ou en action, Dieu ne change pas de forme et ne trompe personne, ni par des fantômes, ni par des discours, ni par des signes envoyés de lui dans la veille ou dans les rêves. Il me semble qu'on ne peut pas nier cela. Tu approuves donc cette seconde loi. Personne, dans le discours ordinaire, ni dans des compositions poétiques, ne représentera les dieux comme des enchanteurs qui prennent différentes formes et nous trompent par des mensonges en paroles ou en actions. Oui, je l'approuve. Ainsi, tout en louant bien des choses dans Homère, nous ne louerons pas le passage où il raconte que Jupiter envoya un songe à Agamemnon, ni celui d'Eschyle où Thétis rappelle qu'Apollon, chantant à ses noces, avait vanté d'avance son bonheur de mère et promis à ses enfants une longue vie exempte de maladie. Après m'avoir annoncé un sort chéri des dieux, il applaudit à mon bonheur dans un hymne qui me combla de joie. Je ne croyais pas que le mensonge pût jamais sortir de cette bouche divine, la source de tant d'oracles. Ce Dieu qui s'assit et chanta au banquet de mon Hyménée, ce Dieu qui m'annonça tant de bonheur, ce même Dieu est le meurtrier de mon fils. Quand un poète viendra nous parler ainsi des dieux, nous refuserons avec indignation de l'entendre. Et de semblables discours seront également interdits aux maîtres chargés de l'éducation de la jeunesse, si nous voulons que nos guerriers deviennent des hommes religieux et semblables aux dieux, autant que la faiblesse humaine peut le permettre. J'approuve ces règles, et suis d'avis qu'on en fasse autant de lois.